Bonjour et bienvenue jusqu'à 14h, c'est le grand face-à-face de France Inter. Au sommaire de l'émission ce dimanche, le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis à 13h30, quel avenir pour l'islam de France? Le président de la République prépare une nouvelle organisation du culte musulman. Financement, formation des imams, des chantiers complexes. Nous ouvrirons le débat avec l'essayiste Hakim El-Karoui. Il fait partie de ceux que consulte Emmanuel Macron sur ces questions. Et il publie « L'islam, une religion française » chez Gallimard. Hakim El-Karoui sera notre invité dans une quinzaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou.
Et le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha.
Bonjour.
Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Comme tous les dimanches, on revient avec vous sur les temps forts de la semaine. Une semaine où il a été beaucoup question de la jeunesse. Vous vouliez l'un et l'autre vous arrêter là-dessus. Et pour commencer, c'était mercredi dernier, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, présentait la réforme du bac et du lycée.
Nous voulons offrir plus de choix aux élèves, plus de passerelles aux élèves. Nous voulons aussi éviter les hiérarchies artificielles entre les séries, de façon à ce qu'on choisisse des spécialités. Cette fin des séries, donc, débouche sur l'existence d'un tronc commun. Je voudrais tout de suite insister sur l'existence, dans ce socle commun, d'une nouveauté que nous appelons humanité scientifique et numérique. Cette expression signifie que nous allons mettre l'accent sur la culture scientifique commune de tous les élèves de France.
Jean-Michel Blanquer, avant de parler du fond des réformes, Natacha, vous qui lisez la presse très attentivement, vous n'avez pas été surprise cette semaine et particulièrement jeudi de voir Jean-Michel Blanquer, superstar, dans les hebdos, dans les quotidiens, partout. Des articles partout et très élogieux le plus souvent.
Ah, il n'y avait quasiment que des articles élogieux. C'était assez, comment dire, il y avait un côté Pravda, quoi. Écoute, c'est fait la une unique de la presse ce jour-là était très étonnante.
Mais des titres de sensibilité très différentes, sensibilité politique, théorique, et qui malgré tout se retrouvaient autour de cet amour, de cette déclaration d'amour pour le ministre de l'Éducation nationale.
Oui, sans doute faudrait-il entrer dans les détails. Le plus intéressant n'est pas que des commentateurs, qui sont en général d'ailleurs des journalistes plutôt politiques, soient fascinés par le sens politique de Jean-Michel Blanquer, et sans doute faudrait-il aller explorer sur le fond ce qui est en train de se passer, les réformes en cours, comment on en arrive à ce que ces réformes semblent nécessaires. Voilà, c'est tout cela qui est intéressant.
Mais sur le phénomène Blanquer, Raphaël ?
Non, mais le Blanquer, c'est l'idéal macronien réalisé, c'est-à-dire que quand il parle, on l'a vu pendant 2 heures sur France 2, quand il parle...
Jeudi soir dans l'émission politique.
Et quand il parle, c'est... la parole du savoir, c'est-à-dire qu'il échappe à toute, en tout cas il tente d'échapper à toute question politique, et c'est le savoir qui parle, et donc par-delà tous les clivages politiques. Donc c'est le ni droite ni gauche, et droite et gauche au milieu réunis, et c'est peut-être bien pour l'éducation sur certains points, un problème comme idéal politique pour moi, c'est-à-dire que il y a effectivement une forme d'unanimisme qui est le rêve du consensus absolu macronien réalisé, et une vie démocratique, c'est quand même fondé sur la confrontation des points de vue et des orientations bien diverses.
Et surtout sur un sujet aussi important.
Ce qui est frappant, c'est qu'en plus les titres de presse qui font tous l'éloge de Blanquer le font chacun pour des raisons différentes. C'est-à-dire que Valeur Actuelle va trouver chez Blanquer l'homme qui réhabilite l'école d'antan et qui met fin aux dérives de gauche de l'éducation nationale. De l'autre côté de l'échiquier idéologique, on va voir chez Blanquer quelqu'un qui aime les sciences, qui aime le progrès, qui n'est pas contre les nouvelles technologies. Et donc, on va se dire que finalement, il n'est pas si réac que ça et il est très efficace.
Et c'est en cela d'ailleurs qu'il est malin, c'est qu'il arrive à éviter les clivages qui existent dans l'éducation nationale, qui sont même essentiels. Et finalement, le seul bémol, eh bien, il a compris comment fonctionnait l'éducation nationale. Et par exemple, il utilise la scientificité contre la scientificité, par exemple. Pendant des années, les tenants des pédagogies constructivistes ont défendu leur point de vue au nom d'une supposée science contre ceux qui, en face,
auraient
été des gens qui voulaient tout simplement revenir dans le passé et étaient contre le progrès. Eh bien, il leur impose un progrès supplémentaire et une science encore plus dure que celle qu'ils défendaient.
Mais expliquez-nous ce paradoxe, puisque vous connaissez bien les questions d'éducation. L'éducation est nationale, elle concerne absolument tout le monde. On en débat pourtant très peu au Parlement. Et là, pour le coup, quand un ministre présente une politique sur l'éducation nationale, bah, c'est très difficile de trouver prise, comme le disait Raphaël Luxman, pour installer un débat, le contredire.
Jean-Michel Blanquer arrive après des années d'abord de déni sur les problèmes qui pouvaient exister dans le système éducatif français et des années de débats un peu stériles ou en tout cas mal posés, puisqu'ils étaient résumés à un débat entre réactionnaires et progressistes qui ne dit rien de ce qu'est réellement la question de l'éducation. Et il arrive au moment où l'ensemble du pays ne peut que constater qu'il y a des données internationales qui prouvent que notre école va mal, qu'elle est la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE. Et du coup, il est, en effet, c'est le macronisme, c'est la quintessence du macronisme dans le sens où il bénéficie de, disons, de toutes les années précédentes, et finalement les gens se disent on ne peut pas en rester là, et donc on est prêt à accepter toute réforme, du moment que c'est une réforme, voilà, c'est... et qu'on va promettre de changer les choses. Raphaël, en l'occurrence, Luxman, sur l'éducation, il était en effet temps, mais pour autant, j'estime que toute réforme doit être discutée et débattue.
Non, mais c'est exactement ce qui fait l'approbation sidérante. C'était 69%, je crois, de sa réforme du bac. C'est-à-dire que là, il touche à une vache sacrée de l'histoire républicaine. Il y a beaucoup de ministres qui, avant lui, ont essayé, plus ou moins, depuis fort longtemps, d'y toucher et qui se sont complètement...
Le baccalauréat.
Ouais, le baccalauréat, pardon.
Un lieu de mémoire.
Oui, ça vous souriez, c'est une expérience heureuse.
Pas du tout. Non, mais c'était uniquement pour...
Mais bien sûr, c'est un lieu de mémoire, c'est un rite de passage, c'est quelque chose d'extrêmement fondateur. Or, tout le monde savait qu'il y avait un problème. Et là, ça a atteint un tel niveau d'ébullition et de conscience du problème qu'il va réussir à faire passer sa réforme là où tous les autres ont échoué. Et ensuite, il faut s'interroger sur quelle réforme, et surtout sortir un tout petit peu de l'atmosphère d'adoration perpétuelle pour voir si la mise en œuvre de la réforme est bien mise en œuvre. Par exemple, un exemple tout bête, lutter contre les inégalités, nous dit Blanquer, et il a raison. Le baccalauréat actuel est un phénomène extrêmement inégalitaire. Et donc, le passage au contrôle continu peut-être une bonne solution, mais comment va-t-il être mis en œuvre? Quel type d'option dans quel lycée? Est-ce qu'on ne va pas reproduire des inégalités? Bref, tout cela, ça demande à être jugé sur pièce.
Natacha. C'est surtout que je pense que tout le problème est de centrer le débat, et on le fait depuis des décennies en France, sur la question de la lutte contre les inégalités. C'est-à-dire que nous avons, à force de faire ça, provoquer, créer un système totalement inégalitaire. Et j'en veux pour preuve le seul journal qui a montré sa réticence vis-à-vis de Jean-Michel Blanquer cette semaine était Libération. Mais pour une raison simple, c'est que Libé expliquait que le grand oral voulu par Blanquer est un exercice discriminant. Pourquoi ? Parce que il y a des différences sociolinguistiques. La syntaxe, la grammaire, le vocabulaire ne sont pas maîtrisés de la même manière suivant les milieux sociaux. Et du coup, demander à des élèves d'être performants, d'être bons dans un oral, c'était reproduire les inégalités sociales et donc les amplifier et discriminer. Et vous voyez comment on prend le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'il est absolument ahurissant qu'on accepte que des jeunes gens de milieux défavorisés, quand ils arrivent au bac, aient des carences absolument dramatiques en termes syntaxiques, en termes de vocabulaire, eh bien, on en conclut qu'il vaut mieux éviter un exercice parce qu'il est discriminant. Et c'est ça qu'on fait depuis des années, qu'on reproduit et qui a aboutit aux inégalités, puisqu'on ne tire pas vers le haut les enfants de milieux défavorisés.
De toute façon, l'écrit aussi était discriminant dans ce cas-là.
Donc non, mais tout est discriminant, c'est-à-dire qu'on élimine tout au fur et à mesure.
Mais encore une fois, prenons concrètement ce qu'il propose, ce grand oral, tout dépend du type de préparation en amont. C'est-à-dire qu'effectivement, en soi, c'est discriminant. Si on prend les gens directement de chez eux, à 5 ans et qu'on leur fait passer un grand oral, les familles vont complètement déterminer le résultat.
C'est le rôle de l'école d'éviter ça.
Voilà. Et donc,
dès le départ.
Tout l'enjeu, c'est comment on va préparer ces jeunes à cet examen oral. Et là, je pense effectivement que ça peut rendre la classe beaucoup plus intéressante, vivante et instructive. ce que Blanquer propose.
Avant d'aborder un nouveau chapitre, Natacha...
En deux mots, c'est pour ça que je pense que cette semaine, il y a eu également le rapport de Cédric Villani sur l'enseignement des mathématiques. Il y a aussi des réflexions sur les programmes scolaires.
Bac,
pour moi, c'est beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que là, on entre dans la véritable réflexion qui est celle qui se passe sur la maternelle, le CP, le CE1. Or, c'est là que ça se joue. Une fois qu'on arrive au bac, si les inégalités scolaires reproduisent les inégalités sociales, ça veut dire qu'on a perdu. C'est avant qu'il faut faire en sorte que ça n'arrive pas, et pour ça, il faut travailler sur la façon dont on va enseigner correctement, c'est-à-dire c'est un savoir-faire, une méthode qui permet de faire en sorte que des enfants, quel que soit leur milieu social, apprennent correctement.
Enfin, mais juste pour dire que le test pour Blanquer, ce sera aussi la question de la sélection après le bac. Et ça va être quelque chose qui va être plus difficile à expliquer, parce que pour l'instant, il le fuit. C'est-à-dire qu'on ne comprend toujours pas s'il y a ou non sélection. C'est un mot qu'il refuse parce qu'il sait que c'est complètement explosif.
Ah, c'est un mot tabou, un mot interdit en politique, voilà, la sélection à l'université.
De facto, il y a une forme de sélection qui s'installe.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann. Le duel.
Ce que vous avez l'un et l'autre retenu de l'actualité de la semaine, c'est également le service national. Après quelques cafouillages dans le gouvernement, il semble maintenant acquis qu'il sera universel et obligatoire. Écoutez les précisions qu'en donnait Emmanuel Macron, c'était mardi dernier.
Ce service national universel, encadré par les armées et la gendarmerie nationale, s'adressera aux jeunes femmes et hommes de toute une classe d'âge, soit environ 600 000 jeunes par an. Au travers d'une expérience directe de la vie militaire, durant un mois. Ce temps de service militaire universel devra intervenir dans les 3 ans suivant le 18e anniversaire de chacun.
Raphaël Glucksmann.
Alors, l'idée de créer un service obligatoire et universel qui permette à toute une classe d'âge de se croiser, puisqu'aujourd'hui on espère faire une société sans jamais... faire en sorte que les gens qui habitent dans le 7e arrondissement, les jeunes qui habitent dans le 7e arrondissement ou à Trappes ou dans un village picard ne se croisent même symboliquement dans leur existence, qui est un mythe total libéral, c'est une bonne idée. Maintenant, je ne vois pas pourquoi on le ferait en tant que service militaire. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi on restaurerait quelque chose qui a été supprimé parce qu'il avait finalement manqué à sa mission. Moi, je pense qu'il faut faire un service civique national avec, pour ceux qui le souhaitent, une dimension militaire, mais qu'il faut effectivement, et ça c'est un grand débat à gauche, et plein de mes amis ne sont pas d'accord avec ça, mais le rendre obligatoire. Parce que le but, c'est quoi ? C'est de réapprendre...
C'est prévu.
Oui, ça c'est prévu, et je le soutiens. C'est de réapprendre à l'individu et qu'il peut exister une forme de contrainte de la communauté politique sur son propre désir et sa propre vie, qu'il doit quelque chose au tout dans lequel il évolue. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas naturel.
L'armée, c'est le meilleur cadre pour prendre cette forme d'humilité-là.
Pourquoi seulement l'armée ?
Non, mais je plaisante. Pour apprendre à se réveiller très tôt, à faire des corvées détestables.
C'est pas nécessairement ça. Pourquoi ne pas développer réellement le service civique sur les questions écologiques, sur les questions d'aide aux personnes âgées, sur les questions d'aide aux personnes à mobilité réduite ? Il y a tout un espace là où les jeunes pourraient apprendre à être utile au tout. Et je suis sûr que ça serait extrêmement bénéfique pour chacun d'entre eux. Ça les sortirait de leur propre ghetto, qu'ils soient des ghettos du 16e arrondissement ou des ghettos de banlieue.
Alors, en effet, cette question de l'obligation, je vous rejoins tout à fait, Raphaël, et c'est très intéressant et surtout très, très étonnant de voir qu'une part de la gauche ne comprend pas qu'elle adhère totalement à l'idéologie libérale en refusant cette idée d'une obligation due au tout, comme vous le dites. Mais simplement, ce qui est intéressant pour comprendre ce qu'est le projet d'Emmanuel Macron, parce que c'est quand même extrêmement flou, c'est de regarder qui s'y oppose et pourquoi. Il y a en effet cette notion d'obligation qui relève de, qui vient d'une part de la gauche et puis des syndicats et étudiants. Il y a la question aussi, et c'est très amusant comme argument, j'ai entendu que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait s'opposer à cette dimension obligatoire au nom de la liberté de circuler.
Ah oui.
Et là aussi, symboliquement, se dire que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait ne pas comprendre justement cette idée que les citoyens, à un moment donné, doivent quelque chose à l'État et donc doivent abolir une part de cette liberté me semble fascinant.
Les citoyens et les citoyennes.
Bien sûr.
Parce que c'est aussi la nouveauté justement de cette proposition.
Pardon, j'emploie les règles de grammaire anciennes, de l'ancien monde, et donc quand
ah oui,
on dit citoyen, j'entends aussi citoyen.
Ali Bazou,
je suis absolument désolée.
Il habite son monde.
Non, oui, parce que ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il n'y aura pas de dortoir mixte pour les garçons et les filles.
On s'en doutait un tout petit peu. Mais bon,
sujet passionnant.
On pourra faire un
si ça doit être
l'obligation des parties,
l'émancipation de toute une classe d'âge.
Il y aura un mouvement du 22 mars pour ça aussi, et du coup, ça vous ravira, Ali. Simplement, je pense que la question de la dimension militaire, visiblement, Emmanuel Macron n'a pas l'intention d'en faire la totalité du service.
En revanche, vous seriez plutôt favorable à une dimension purement militaire, Natacha ?
Ah non, pas du tout.
Non.
Mais je pense qu'il en faut une petite partie. Pourquoi ? Parce que la question de savoir qui défend la patrie est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que ça commence avec Athènes et avec l'hoplite, c'est-à-dire le citoyen-soldat qu'on retrouve ensuite à Rome. Et dans l'histoire de l'humanité, les moments où on n'a pas ce citoyen-soldat, ce sont les moments où il n'y a pas de démocratie ou de république. C'est-à-dire que celui qui prend les armes pour défendre la patrie, symboliquement, c'est celui qui détient le pouvoir. Ou alors, on fait appel à des mercenaires. Et c'est pour ça que la conscription ressurgit à Valmy et au moment où le peuple s'émancipe et il est souverain. Alors évidemment, l'armée est de métier. Mais voilà. Au moins, être capable à un moment donné de se dire qu'on peut être impliqué aussi dans une forme de défense.
Et citoyen ou citoyenne, celui ou celle qui fait exister l'État. Ça a une dimension militaire, mais ça a plein d'autres dimensions. De faire exister la collectivité dans laquelle on habite. Donc moi je propose que ce soit là, on puisse avoir une forme de libre choix. Mais surtout ce qui est important, c'est ce débat en fait sur le tout et les parties. Vous savez, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Hegel qui expliquait pourquoi les États font des guerres. Et il disait, on peut dire que c'est pour des questions de frontières ou des questions économiques, certainement c'est vrai, mais c'est pas ça le principal. Pourquoi ? Parce que quand les sociétés ont l'illusion de la paix perpétuelle, eh bien, chaque partie pense qu'elle peut exister de manière autonome. Une partie, ça peut être une entreprise, ça peut être un individu, ça peut être une communauté, ça peut être tout ce que vous voulez. Et, tout d'un coup, l'État rappelle aux parties qu'elles appartiennent à un tout et que sans ce tout, elles n'existent plus. Donc, pour éviter justement, qu'il y ait des déclenchements de guerre et un nationalisme extrême, il faut réapprendre, à mon avis, à l'inscription de nos libertés dans un tout. Et ça, c'est une question qui n'est pas du tout résolue.
Donc vous êtes tous les deux des amoureux de l'ordre et de la discipline ?
Non, pas du tout, de l'ordre et de la discipline, au contraire. Et en plus, on peut utiliser ce service civique, eh bien, pour faire des choses absolument non ordonnées ou non disciplinaires et travailler par exemple sérieusement sur la transition écologique. Il y a toute une foule de tâches qui sont absolument déterminantes pour l'avenir de notre société et qui peuvent être visées par ce service civique. Simplement, moi je suis pas pour la discipline, je suis pour que l'individu comprenne que, eh bien, il n'est pas son propre horizon. Qu'il y a des projets qu'il dépasse, y compris la communauté politique qu'il habite.
Et puis on peut aussi être un tout petit peu plus terre à terre, c'est-à-dire sans aller jusqu'à la question de l'écologie, le service national a aussi une dimension qui est de récupérer tous ceux qui, à un moment donné, ont décroché. Il peut servir à faire passer le permis de conduire, il peut servir à repérer les formes d'analphabétisme. Tout ça, ce à quoi servait l'ancien service militaire et qui a été abandonné et qui aujourd'hui manque cruellement.
Mais
et
un mois, c'est court pour tout ça.
Non, mais voilà, c'est pour ça que la promesse d'Emmanuel Macron d'un mois de service était une aberration totale et tout le monde le savait.
Vous voudriez que ça dure un an, par exemple ?
Non, pas un an. Mais il est en train de se diriger visiblement vers de 3 à 6 mois comme durée, ce qui me semble beaucoup plus raisonnable, justement, parce que ça laisse le temps de faire des classes et ensuite d'avoir une action qui soit une action civique. Mais les 1 mois, c'était de la démagogie pure. C'était pour faire plaisir aux tenants du service militaire ou civique, mais pour ne pas froisser les militaires qui n'ont aucune envie de récupérer des jeunes gens qu'ils auront à discipliner.
Raphaël Luxman, encore un mot.
Non, non, mais c'est extrêmement important comme test et chacun devra se positionner sur ça parce que l'illusion dans laquelle on a vécu pendant 30 ans, là, c'est que les individus seuls pouvait faire société. On voit bien que c'est faux, ça ne marche pas. Et on a des ghettos sur notre territoire. Là, on fait tout reposer sur l'école, c'était le sujet précédent. Mais l'école ne peut pas assurer à elle-même le fait que les gens se croisent et appartiennent à une collectivité nationale. Il faut d'autres structures dans la société qui permettent de soulager le poids de l'école.
Oui, et qui permettent aussi, à un moment donné, de se poser la question de savoir pour qui et pourquoi on est prêt à mourir. Même si personne ne souhaite qu'il y ait la moindre guerre, et même si en cas de guerre, on se doute que l'armée de métier serait sans doute beaucoup plus efficace que des gens qui auraient subi 3 semaines ou 1 mois de classe, il y a symboliquement cette idée qui consiste à se dire, voilà, je suis prêt à mourir pour des valeurs qu'incarne la société dans laquelle je vis.
Là, pour le coup, Raphaël Glucksmann a l'air d'émettre...
Je sais.
Ça peut être un mot avant d'être invité à quelqu'un, un petit peu votre propos. C'est prêt à mourir, même symboliquement à soi-même. Ça veut dire que prêt à sacrifier une partie de son temps, de son énergie, de ses désirs, pour s'inscrire dans une communauté collective. Là, je suis entièrement d'accord.
Et donc, pas de dortoir mixte. Le grand face-à-face de France Inter continue jusqu'à 14h et place maintenant au débat de la semaine.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Quel avenir pour l'islam de France ? Le président de la République prépare une réorganisation en profondeur du culte musulman. Dirigeants, financement des mosquées, formation des imams, ce sont quelques-uns des sujets qui sont sur la table. On en débat avec notre invité, c'est l'un des experts que consulte Emmanuel Macron, entrepreneur, essayiste. Il publie « L'islam, une religion française » chez Gallimard. Bonjour Hakim El Karoui.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue, l'islam dans la République, le sujet rend fou, peut rendre fou, vous l'abordez de manière extrêmement sereine et posée pour penser l'avenir de l'islam dans la République. Avant de comprendre les propositions que vous faites et la manière dont vous envisagez l'avenir du culte musulman dans la République française, c'est à l'État d'organiser un système religieux ?
Pas tout seul, mais c'est aussi à l'État. Parce qu'il y a des questions de sécurité d'abord, on l'a vu, et il ne faut pas se voiler la face, parce qu'il y a aussi un enjeu de comment on vit dans la République. La laïcité, c'est l'organisation, d'une certaine manière, de la vie dans la République. Donc c'est aussi à l'État. Moi, je pense que c'est plus aux musulmans de prendre l'initiative. D'une certaine manière, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, et j'espère que les musulmans vont se manifester.
Espérons-le, mais ce qui est assez curieux, c'est que les États doivent s'occuper de la religion jusqu'où ? Alors, il y a des questions de financement, il y a des impossibilités liées à la loi de 1905. Est-ce que c'est, par exemple, à l'État français, à la République, de décider qui est imam et qui ne l'est pas ?
À ce stade, non. Sauf quand même, je le rappelle, sur 10% du territoire, même un peu plus, parce qu'il y a un concordat, en Alsace-Moselle. Vous savez qu'en Guyane, on nomme l'évêque. À Mayotte, on vit sous les Maoris, je sais plus comment, je crois qu'ils s'appellent comme ça, vivent sous la loi islamique. Donc, la République, c'est être plastique. Bon. Aujourd'hui, évidemment, c'est pas à l'État de nommer ni les imams, ni les rabbins, ni les évêques. Il l'a fait pendant longtemps. Il l'a fait aussi, on l'a bien oublié, en Algérie. Jusqu'en 1962, donc c'est-à-dire après 1905. Et aujourd'hui, on est face à un problème parce que d'un côté, on a une montée du fondamentalisme religieux musulman. Et puis de l'autre côté, on a une organisation représentative qui dysfonctionne de partout.
Le CFCM, pour ne pas le citer, vous proposez d'ailleurs de remettre les choses à plat sur la manière de représenter les musulmans dans un conseil. Et puis également, vous faites des propositions sur le financement. D'un mot pour les comprendre, et avant d'ouvrir le débat avec Natacha et Raphaël.
Alors moi, je suis prudent sur la représentation, parce que je pense qu'on va avoir, on a beaucoup de mal, on aura toujours beaucoup de mal à s'occuper de la représentation, comment l'organiser, etc. Ce dont je parle, c'est plutôt de aller à côté du sujet de la représentation et aller sur le sujet du financement. Parce que si on veut agir, on a besoin d'argent. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles des pays étrangers s'immiscent dans l'organisation de l'islam, c'est qu'ils disent « nous, on apporte de l'argent ». Et donc moi, mon idée, c'est de créer une organisation qui va s'occuper du financement, qui n'aura pas vocation à être représentative, qui aura vocation à être transparente et professionnelle, et qui ensuite va redistribuer de l'argent en créant des conseils, un conseil religieux, un conseil théologique, un conseil pour la formation des imams, un conseil pour la relation avec la laïcité, etc., qui eux, et avec des experts, qui eux vont pouvoir, sur la base d'appels d'offres, sur la base de projets, financer un certain nombre d'initiatives.
Notamment des mosquées, par exemple, mais pas seulement. Natacha Polony.
Je pense qu'il y a dans ce projet une difficulté majeure qui est que vous allez vous heurter à ce qui constitue aujourd'hui l'Organisation de l'Islam de France et notamment le CFCM. Je pense à cela parce que, tout simplement, j'ai été frappée d'entendre l'autre jour Ahmet Ogras, donc le président du CFCM, qui est turc, m'expliquer...
Enfin, qui est français.
Oui, il est franco-turc, si je ne me trompe. Mais je peut-être... Alors là, enfin, je n'en jurerai pas. Mais en tout cas, il a visiblement une immense difficulté à parler de Recep Erdogan d'une façon qui soit un petit peu distanciée. C'est pour ça que c'est ce qui m'a trompée, sans doute. Mais première chose, je pense que j'ai été frappée de l'entendre dire qu'il n'y avait, selon lui, aucune différence entre islam et islamisme parce qu'il n'y a que des interprétations différentes de l'islam et que tout cela est un continuum. Or, je vous ai lu, vous distinguez, vous expliquez à un moment, et je pense que c'est vrai, que seuls les islamophobes et les islamistes essayent de faire croire que les musulmans sont une entité homogène. Donc j'ai été profondément gênée par cette discussion avec lui et je me demande comment... avec des instances comme celle-là, on peut réussir aujourd'hui à répondre aux enjeux.
Hakim El-Karoui.
Alors, si avec une difficulté, franchement, ce serait une bonne nouvelle. Et si le CFCM n'était que la difficulté,
mais
je serais
derrière
optimiste.
Le CFCM, il y a peut-être une partie aussi, beaucoup des imams en France. Pas seulement ceux qui sont au CFCM, non ?
Oui, alors les imams, vous savez, ils sont... Bon, il y a les 300 imams payés par l'étranger. Oui. Il y en a 700 qui sont à peu près salariés. L'enjeu, c'est assez peu les imams. L'enjeu, c'est les prédicateurs sur Internet, en fait, hein, si on veut parler du sujet idéologique. Sur la question politique du CFCM, le problème qu'on a, c'est que il y a des pays, la Turquie, l'Algérie et le Maroc, qui se sont insérés, immiscés dans l'organisation de l'islam, avec des bonnes raisons, parce qu'ils disent, nous, nos imams sont moins radicaux que les prédicateurs. Salafistes, et aussi beaucoup de mauvaises. La première, c'est qu'ils en font un levier politique sur la France. La deuxième, ça c'est un problème, c'est qu'ils ont...
Ils répondent aussi à une demande de la France, c'est le cas du Maroc par exemple, qui répondait à une demande de la République française de former des imams qui ne soient pas fondamentalistes ou susceptibles d'être radicaux.
Oui, avec cette idée qui a commencé il y a bien longtemps, on va externaliser... les problèmes, la gestion des problèmes. Donc on l'a fait d'abord avec l'Algérie, c'était Charles Pasqua avec la mosquée de Paris. Là, François Hollande l'a fait avec le Maroc et la formation des imams. La réponse, ça peut pas être l'externalisation du problème, pour une raison simple, c'est que les imams importés, ils connaissent pas les jeunes Français. D'abord, ils parlent souvent mal français, ils connaissent mal les jeunes Français, ils n'auront pas d'impact sur eux. Donc la réponse, elle est en France. Il va falloir contourner, il va falloir négocier avec les États. Les États, ils ont peur d'une chose, surtout, c'est qu'on interdise les financements étrangers. Donc moi, je pense qu'on a un levier politique sur eux, consiste à leur dire, on va pas les interdire, mais on va les valider. On va les accréditer, et d'une certaine manière, on va gérer votre argent parce qu'on a besoin de transparence.
Raphaël Luxman.
C'est très intéressant ce que vous écrivez sur le financement, parce que ça va plus loin que ça, en fait. C'est faire un pot commun... Et qui ensuite fait que on n'est plus dépendant du financement direct. Et ça c'est extrêmement important parce qu'en fait et d'ailleurs le titre provocateur de votre livre volontairement un peu provocateur.
Pourquoi provocateur ?
Non, mais
l'islam une religion française.
Oui, parce que ça provoque les gens qui se refusent à l'admettre. C'est ça le but. Excusez-moi. Simplement toute cette externalisation qui a eu lieu. Prouve que jusqu'ici, même les gens qui proféraient une forme de tolérance considéraient les musulmans français comme des invités, comme des gens, comme l'autre qui n'est évidemment pas d'ici et qui donc peut être géré par une ambassade étrangère. Et donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire, peut-être sans toucher à ce point à la laïcité, d'ailleurs ça peut être un débat, mais ce qu'on arrive à faire en sorte que le financement soit un français, même s'il peut y avoir un pot commun alimenté par l'étranger. Et notamment, votre idée, si je ne me trompe pas, c'est celle d'une taxe sur les produits halal, qui ferait qu'il y a un autofinancement par la communauté et par les gens qui pratiquent, donc parce qu'ils achètent halal. Et donc ça peut débloquer le problème. Parce que l'idée folle, et après je m'arrête, qui a animé...
Enfin, les consommateurs de produits halal vont être ravis de la proposition d'Hakim El-Karoui.
Oui, mais enfin, à un moment, c'est chacun prend ses responsabilités, mais... l'idée folle qui a animé les présidents, c'était de choisir un représentant de l'islam. ça a été un fiasco à chaque fois. Sarkozy a voulu le faire, ça n'a pas marché. Et peut-être que par ce biais-là, on peut arriver à responsabiliser les gens.
Hakim El Khaoui.
Vous avez prononcé le mot. Il y a un concept qui n'existe pas dès qu'on parle d'islam en France, et c'est celui d'intérêt général. L'intérêt général de la France, lutter contre le fondamentalisme, permettre le libre exercice du culte. L'intérêt général des musulmans de France, lutter contre le fondamentalisme, permettre le libre exercice de leur culte. C'est le même. Sauf que le CFCM, représentant des pays étrangers, a importé les intérêts particuliers des pays, et puis maintenant de plus en plus, des personnalités. Parce que les pays sont aussi un petit peu distants.
On achetait la paix civile en déléguant une part de souveraineté.
Voilà. Et la question aujourd'hui, effectivement, c'est... des flux financiers pérennes. Alors, il y a une contribution sur le halal. Peut-être que les prix vont augmenter un tout petit peu, mais vous savez, les flux sont tellement importants que si on prend 0,5% de chaque flux, ça se verra pas. Et ça permettra d'alimenter une caisse assez régulière. Le pèlerinage, le prix du pèlerinage a explosé en quelques années à la Mecque. Pourquoi?
Vous voulez taxer également?
Non, je ne vais pas taxer, moi je veux contribuer. Moi je veux prendre l'argent pour le rendre. Pour que...
C'est l'ancien banquier d'affaires qui parle.
Les musulmans, leurs enfants, puissent vivre sereinement leur foi dans la République. Voilà. Aujourd'hui, ça ne marche pas très bien, et je crois qu'il faut le reconnaître.
Natacha Polony.
La question ne se résume pas, hélas, à l'organisation de l'islam de France, dans la mesure où... pour ce qui est des imams, vous disiez le vrai problème vient des prédicateurs, mais justement il y a une pression idéologique des prédicateurs sur les imams, dans le sens où il s'agit pour les imams de ne pas avoir l'air de trop condamner ces prédicateurs pour ne pas s'aliéner une part de ce public, d'une part de ces croyants. Et en fait, dans votre livre, vous reprenez la fameuse étude de l'Institut Montaigne
qui l'avait menée en 2016, grande étude sur les musulmans de France.
Et qui était un des premiers portraits finalement des musulmans de France. Or, on y trouve des données qui, déjà à l'époque, m'avaient profondément inquiété tout de même sur la capacité que nous pouvons avoir à répondre à tous ces enjeux. Par exemple, on parlait des imams étrangers et de l'emprise des pays étrangers. Mais quand on voit plus de 80% des mariages entre personnes de confession musulmane se fait en fonction de la nationalité d'origine. C'est-à-dire qu'en gros, quelqu'un qui est d'origine marocaine aura tendance à épouser à plus de 80% une autre personne d'origine marocaine. Quelqu'un qui est d'origine tunisienne aura... Je me pose la question de la possibilité de sortir de cette logique qui, en effet, est mortifère et qui consiste à rester dans l'idée qu'il y aurait des gens qui seraient des invités et qui ne seraient pas pleinement français.
Hakim El Khaoui.
Je ne suis pas sûr de votre chiffre. Enfin,
Trouvé dans votre livre.
Ouais, alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'endogamie nationale.
Non, ce n'est pas l'endogamie nationale. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que vous dites que le communautarisme musulman n'existe pas.
Non, il n'existe pas parce qu'il n'y a aucun sentiment d'appartenance en tant que musulman. Il y a des identités, des attachements.
Donc c'est un fantasme de ceux qui en parlent ?
Oui, c'est un fantasme parce qu'en fait, on utilise le mot communautarisme pour ne pas dire islamisme. Donc, on dit les communautarismes. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les communautarismes. Je sais ce que c'est l'islamisme, à peu près. Et oui, il y a de l'islamisme dans certains quartiers, etc. Par contre, la communauté musulmane organisée comme un tout, avec des intérêts communs, une vision commune, des ennemis communs, ça n'existe pas du tout.
Raphaël.
Et juste sur la question des mariages, pour moi le plus frappant, c'est pas les mariages endogames, c'est le contraire, c'est les mariages mixtes. Et ça, c'est une grande spécialité française. Et ça marche avec les femmes musulmanes. C'est interdit par l'islam, c'est interdit par la culture arabe. On sait qu'on est à 20-25%, 40 ans après leur arrivée, de mariages mixtes, de femmes d'origine musulmane. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'il y a une attraction du modèle républicain. Et en même temps que les Français sont ouverts. Et puis on a un autre phénomène, un niveau de discrimination qui est extrêmement élevé.
Vous voyez, vous distinguez français et musulmans.
Non, les Français, ils sont ouverts aux musulmans. Là, en l'occurrence, il faut les distinguer. Et puis, de l'autre côté, une volonté d'enfermement identitaire avec une idéologie de repli et de repli et de rupture. Il y a les deux phénomènes à la fois.
Non, Raphaël.
Non, ce qui est intéressant, en général, c'est de dépassionner en fait un débat ultra passionnel et de montrer qu'on peut tout à fait parler d'intégration des musulmans et même de questions de l'islam et de représentation des musulmans et de la nécessité pour eux de vivre en foi, sans verser dans un modèle communautariste, c'est-à-dire sans lâcher cette ambition républicaine qui est, à mon avis, essentielle à préserver en France, c'est que justement cette mixité, c'est d'aller au-delà de la tolérance, d'aller au-delà des vous habitez votre quartier, vous organisez comme vous le souhaitez, de participer à une aventure collective. Après, moi, ma question, c'est comment on fait. Donc j'ai bien compris le volet inclusif, comment on fait pour lutter efficacement contre ces prédicateurs, contre l'influence des médias qataris? Comment on fait pour préserver et de cette influence?
Hakim El Karoui.
À mon avis, c'est le grand débat. Et on est sûr d'une chose, c'est que c'est pas l'État qui le fera. Et d'ailleurs, plus l'État essaiera de s'en mêler, plus il échouera, parce que il décrédibilisera ceux qui seront perçus comme étant proches de lui. La réponse, je pense, elle est à la fois intellectuelle et puis très opérationnelle. Intellectuelle parce que on a besoin d'un travail théologique, un travail critique, d'un travail historique. Ce travail, d'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle. Il sera fait en Europe. Il a commencé à être fait en Europe, mais il sera fait de plus en plus en Europe pour une raison très simple, c'est que dans le monde musulman, on peut pratiquement plus faire ce travail-là. C'est impossible de critiquer, d'aller contre les idées reçues, etc. Donc un travail théologique. Et puis après, il y a un travail qui est très 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 opérationnel. Il faut être là où sont les prédicateurs. Il faut être sur Facebook, il faut être sur YouTube, il faut être sur Instagram, il faut être sur Internet, et il faut porter un discours alternatif. Le sujet, d'une certaine manière...
Et comment le rendre plus séduisant que l'autre discours, celui mais contre lequel vous voulez
demande,
lutter?
Il y a une demande de religion. Il y a une demande de fait religieux. Si on n'a que des intellectuels qui parlent, on parlera aux intellectuels, on se fera plaisir, on parlera d'ailleurs au grand public. Il faut se mettre là où sont, d'une certaine manière, les musulmans, notamment les jeunes, ceux qui sont attirés par le fondamentalisme. Il faut leur parler avec leur code. Il faut aussi répondre à leurs questions. Ça, c'est la réponse religieuse. Après, il y a un certain nombre ce phénomène ne s'inscrit pas, n'est pas un phénomène exogène à la société française. Il dit beaucoup de choses sur les difficultés d'insertion des jeunes. Il dit beaucoup de choses sur la montée d'une forme d'individualisation des rapports sociaux.
Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il est à la fois exogène et interne. C'est-à-dire que à la fois, il y a le facteur exogène, puisque l'idéologie fondamentaliste, elle est nourrie par les pays du Golfe, et c'est un projet de conquête du monde musulman.
Pas que les pays du Golfe, ça vient de...
Oui, mais ça a été un projet de conquête de l'Oumma, déjà, à l'origine, et bien sûr, aussi par les conditions dans la société française, et le sentiment de rejet, le sentiment d'exclusion, et la discrimination. Mais l'enjeu, c'est quand même aussi de faire émerger une analyse assez radical de ces idéologies-là et du mode complotiste qui les anime.
Natacha Polony.
Oui, le mode complotiste étant là aussi très marqué. D'ailleurs, dans votre enquête, oui, c'est ça, il y avait 37% des musulmans, disiez-vous dans votre enquête, sont persuadés qu'il existe un complot contre l'islam. C'est tout de même là aussi très inquiétant, mais surtout, en effet, il y a deux choses. D'abord, la question, vous dites qu'il faut une réforme théologique. Jusqu'où doit-elle aller? Parce que certains intellectuels musulmans aujourd'hui disent que ça doit aller jusqu'à réfléchir à certains textes du Coran qui devraient être certaines sourates, qui devraient être amendées parce qu'elles posent problème en elles-mêmes. Est-ce que on doit aller jusque-là? Est-ce que c'est possible? Et deuxième point, il y a ensuite, me semble-t-il, quelque chose que reflétait par exemple parfaitement Menel Iptissem, cette jeune fille donc, qui a été
candidate à The Voice.
Voilà, qui a dû quitter The Voice. Et quand on voit cette jeune fille parfaitement émancipée, qui mène une vie totalement libre, et elle l'affiche, ne serait-ce que par son choix d'être chanteuse, et qui, à côté de ça, retransmettait sur sa page Facebook des prêches d'un proche des frères musulmans, Hassan Iqiyousen, qui tient des propos sexistes, totalement réactionnaires, homophobes, antisémites. Ce paradoxe-là, comment on fait pour lutter contre?
Hakim El Karoui.
Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Si j'avais la réponse, si j'avais la baguette magique, on l'aurait fait depuis longtemps, je pense. On est alors Menel. Qu'est-ce qu'elle incarne? Elle est voilée. En même temps, elle chante. Bon, les salafistes disent on n'a pas le droit de chanter. Pour répondre à votre première question sur faut-il amender le Coran, je vous dirais, un, moi je suis pas théologien, et deux, je crois pas. C'est pas les sourates dont il faut enlever des bouts, on va pas enlever des bouts de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament. Il y a beaucoup de violence aussi dans les textes.
C'est le moins qu'on puisse dire.
La question, c'est comment on les interprète. Quel sens on leur donne aujourd'hui, enfin, au moment historiquement où ils ont été dits ou reçus, et puis quelle utilisation on en fait aujourd'hui. Sachant que le texte qui est utilisé aujourd'hui, c'est le Coran, mais c'est beaucoup les propos rapportés du prophète, qui ont d'ailleurs des valeurs historiques plus ou moins fortes. Donc c'est un travail de théologien et puis en même temps d'historien. La deuxième chose, en gros, la question, c'est l'identité des jeunes. Comment on fait pour à la fois être inséré, Et cette jeune femme, elle est insérée dans la société française, à l'évidence. Elle n'est pas dans une logique de repli, de rupture. Elle est aussi dans une logique d'affirmation de son identité. Et elle le dit, et le voile, pour elle, est une façon très probablement de dire « je suis ce que je suis ». Et puis, elle relaie effectivement des propos complotistes sur l'attentat de Nice, des prédicateurs, Hassan Iqiyoussen, qui est bien connu, proche des frères musulmans, enfin en tout cas très orthodoxe, voire très intégriste. Mais moi, je pense que, enfin, j'en reviens à ma question, à mon sujet de l'offre. Si on leur dit pas qu'il y a autre chose, y compris pour affirmer leur identité, que ce soit une identité musulmane ou une identité française, on perdra la bataille.
Et si on veut faire les deux, c'est-à-dire imaginer un islam français, ce que vous essayez de faire, il existe déjà ou il est à inventer ?
Il existe déjà, il est tout à fait silencieux et souterrain. Il existe dans la majorité, je pense, des Français de confession musulmane qui sont en train d'inventer une identité, une pratique, une façon d'être, une façon de bricoler, une façon de... Voilà, ça c'est une invention et à mon avis, il y a un grand travail à faire là-dessus pour montrer ça et montrer aussi qu'il y a de l'espoir.
Vous dites confession musulmane ou culture musulmane ?
Il y a des gens qui sont de confession musulmane parce qu'ils vont être croyants, il y a des gens qui sont de culture musulmane parce qu'ils vont avoir un héritage musulman et ils ne seront plus forcément croyants, et puis il y a ceux qui sont les deux.
Que vous dit le président de la République quand vous le rencontrez ? En général, on n'aime pas dévoiler les conversations qu'on a avec le chef de l'État, mais allez.
Je n'irai pas contre cette règle.
Mais si, faites-le, dites-nous un petit peu ce qu'imagine Emmanuel Macron pour réorganiser l'islam de France.
Moi, ce que je sais, c'est qu'il travaille, il consulte.
Ça, c'est bien.
C'est bien.
Il vous consulte, si, c'est encore mieux.
Il consulte plein de gens, et peut-être moi. Je pense que c'est bien qu'il prépare quelque chose sérieusement, sachant que son prédécesseur, par exemple, s'intéressait assez peu à ces sujets-là. Après, ça ne marchera que s'il y a deux acteurs, au minimum, l'État, certes, les musulmans, puis au passage, il faudra quand même régler leur compte aux États d'origine.
Raphaël ?
Natacha
Polonier,
régler leur compte pacifiquement.
Les remettre à leur place,
non, on va pas commencer à faire des guerres. Là. Non, mais pour dézoomer un tout petit peu.
Et rapidement, puisque l'émission touche à son terme.
Les propos complotistes qui sont le propre de certains jeunes musulmans sont aussi le propre de certains jeunes non musulmans dans la société française. La théorie du grand remplacement dans l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur le complotisme, la théorie du grand remplacement, l'idée folle que le gouvernement et les élites politiques, intellectuelles et financières organisent le remplacement volontairement de la population française par une population immigrée.
49%
des Français y croient. Donc
c'est pas spécifique aux musulmans.
Voilà. Et donc il y a la rencontre en fait entre une atmosphère générale qui est absolument catastrophique si on est honnête, de tendance au complotisme, au refus des vaccins, à la méfiance généralisée vis-à-vis du discours éclairé. Et d'une idéologie fondamentaliste. Et donc c'est ce cocktail-là qui est extrêmement dangereux, mais à mon avis, une partie du problème sera résolue par une résolution générale. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on ait un nouveau discours vis-à-vis de la jeunesse française, pas seulement la jeunesse musulmane.
Vous acquiescez, Hakim El-Karoui ?
Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, d'une certaine manière, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est un sujet spécifique et c'est un sujet général qui dit quelque chose de l'évolution de la jeunesse française.
Et qui concerne l'ensemble de la société française. Et c'était un débat qui est très loin d'être terminé, mais qui a eu lieu de manière sereine et apaisée. Donc c'est possible finalement de parler de l'islam de France, de l'islam en France, sans être fou.
Ah oui, c'est possible. Et puis on va y arriver.
Bah évidemment. L'islam, une religion française, c'est le livre que vous signez chez Gallimard. Merci Hakim El-Karoui d'avoir été notre invité, Natacha et Raphaël. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci à Ophélie Vivier qui a préparé cette émission, à la réalisation Marion Lelay, à suivre Zoé Varier et sa journée particulière.